l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Saint-Céré, 95.8.
Bon début de semaine, bon lundi, très heureux de vous retrouver pour ce Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h dans cette émission. On va découvrir une formation qui offre un diplôme professionnalisant. C'est l'IUT de Tarbes qui vous ouvre ses portes avec sa formation technique de commercialisation. Frédéric Girard, la responsable du département Tech de Co, sera au micro d'Anne-Rose Jankovic. Elle sera à son micro à l'occasion des journées portes ouvertes qui seront les 30 et 31 janvier à Tarbes. On en parlera donc dans un instant avec son invité. Et puis dans cette émission, nous allons recevoir la maman d'un saint, Antonia Salzano, la maman de Carlo Acutis, canonisé en septembre 2025. Eh bien, Antonia était à Lourdes en octobre dernier. C'est à cette occasion que Mathias Terrier l'a interrogé dans son émission de passage à Lourdes. Au cœur de ce magazine également, à 12h30, on retrouvera l'actualité régionale et c'est Victor Vignier qui sera avec nous. Il est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Voilà pour les grandes lignes et le sommaire de cette émission.
Présence.
Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous, sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles. Et pour qu'elle ait les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin, votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons. Pour soutenir toutes ces actions sur le terrain, donnez à donner.catholique.fr.
Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
Très bon appétit à l'écoute de Présence Midi, direction le département des Hautes-Pyrénées. On part à Tarbes avec l'invité d'Anne-Rose Jankovic, Frédéric Girard, responsable du département tech de Co à l'IUT de Tarbes. Les journées portes ouvertes de l'IUT de Tarbes, c'est les 30 et 31 janvier prochains.
Bonjour Frédéric Girard.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes la responsable du département Tech de Co à l'IUT de Tarbes. Aujourd'hui, vous allez nous présenter cette formation depuis 1992, pardon. Cette proposition existe à l'IUT de Tarbes, donc Tech de Co. Tech de Co, c'est un raccourci. Vous allez nous expliquer ce qu'il y a derrière. Ça n'est pas de la communication, comme on pourrait le penser. D'abord, peut-être qu'on peut faire une présentation un peu générale de cette filière. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Oui. Alors, donc le BUT Tech de Co, technique de commercialisation, c'est déjà un diplôme en 3 ans qui prépare donc au niveau bachelor, c'est-à-dire L3, aux études de commerce en fait, très généralement, donc en préparation soit d'une poursuite d'études dans ce domaine, soit d'une insertion professionnelle dans tous les métiers du commerce.
Donc l'avantage de cette formation, c'est l'alternance, hein. C'est une formation qui propose vraiment une découverte, une professionnalisation, c'est ça l'objectif.
Alors le propre du BUT déjà, c'est d'être un diplôme professionnalisant par rapport à un bachelor classique, dans la mesure où nous avons déjà 60% des enseignements qui sont des enseignements théoriques et 40% d'enseignements appliqués. Et effectivement, nous pouvons proposer à partir de la deuxième année la formation en alternance. Donc deuxième et troisième année du BUT.
Et ça, c'est la proposition qui séduit le plus. C'est ça que les étudiants viennent chercher, cette possibilité d'être rapidement mis devant devant le travail à accomplir techniquement.
Alors effectivement, on a un profil d'étudiant un peu particulier. Bon, déjà, c'est important de le souligner. Dans la mesure où on a 50% d'étudiants qui viennent de bacs technologiques et 50% qui viennent d'autres bacs. Et c'est vrai que il y a une motivation quand même assez forte vers la professionnalisation, mais pas uniquement, parce que notre formation a, on va dire, un double objectif, à la fois une insertion professionnelle après le BUT si on le souhaite.
Donc ça veut dire que dès qu'on termine, c'est possible de
travailler. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Effectivement, c'est fait pour ça. Mais aussi c'est une très très bonne préparation à la poursuite d'études, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Alors effectivement, les étudiants sont très intéressés par le côté professionnalisant au travers de l'alternance, c'est certain, des stages. Et c'est vrai que l'alternance, c'est une proposition qui est assez séduisante pour eux, parce que ça leur permet déjà de mettre en pratique ce qu'ils voient en cours. Ça leur permet d'avoir une première expérience professionnelle, et ça compte vraiment sur le marché du travail ensuite, quand ils pourront postuler sur un emploi.
Et puis c'est valorisant très vite.
C'est valorisant très vite. Effectivement, ils se rendent compte assez vite de ce qui leur manque aussi. Et puis souvent, on se rend compte après une année, notamment même quelques mois, que c'est pas du tout le même profil d'étudiant qu'en formation initiale. Ils sont beaucoup plus professionnels dans leur posture.
Ça veut dire plus près à aller dans le monde de l'entreprise. Il y a cet aspect-là qui compte, quoi.
Oui, tout à fait. Il y a une maturité professionnelle. Ouais. Alors, quand ils reviennent souvent, quand même, ils se lâchent un petit peu parce qu'ils sont contents de revenir en formation. Mais c'est vrai qu'ils développent des savoir-être qui sont particulièrement importants pour la suite aussi.
Oui, et dans ce domaine de profession, la commercialisation, bon, faut avoir aussi ce savoir-être qui est très important.
Oui. Nous avons beaucoup de cours de communication, communication commerciale, expression communication culture, des cours de psychologie d'ailleurs.
C'est vraiment un métier de relation. En fait, c'est vraiment du relationnel.
Alors, c'est une partie du métier. Donc, c'est vrai que c'est dans ces termes-là qu'on se représente le métier de commercial souvent. Mais il y a aussi toute une partie d'analyse, de stratégie, et notamment au niveau marketing, par exemple.
Alors justement, les profils des candidats, qui sont les étudiants qui viennent frapper à votre porte? Ils sont plutôt attirés par quel aspect de cette profession? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher au fond?
Alors, nos étudiants ont un profil plutôt de communicant.
Oui.
Ils sont généralement assez extravertis. Ils n'ont aucun souci avec la communication.
Qu'est-ce que ça veut dire, extraverti?
Parfois, ça peut être un peu difficile de les tenir en classe, par exemple. Ils sont très, très négociateurs dans l'âme, y compris avec les profs.
Ah, donc, ils sont prêts à faire du commerce, quoi.
Ils sont tout à fait prêts à faire du commerce.
Non, ils sont pas là par hasard.
Ils ont déjà, on va dire, un peu ces compétences-là innées. Enfin, ça fait partie un peu de la fibre.
Ouais.
Si un étudiant est très, très réservé, il va très vite se sentir mal à l'aise dans les cours.
Ouais.
Parce qu'il y a des cours déjà de négociation avec des mises en situation. Et là, il faut quand même pouvoir assurer, donner le change.
Il faut avoir du répondant.
Il faut avoir du répondant. Voilà.
Et donc, vous leur apprenez tout ça.
Voilà.
Mais ils ont déjà un terrain favorable.
Exactement.
Revenons sur les cours. Vous avez dit 40% de cours qui sont des cours pratiques, en fait. Qui dispense ces cours? Ce sont des professionnels, des chefs d'entreprise qui viennent directement parler aux étudiants?
Alors, l'IUT, c'est une formation universitaire. Donc, on a cette particularité d'avoir trois grandes familles d'enseignants. On a d'abord des enseignants pur produit de l'université, enseignants-chercheurs. Ensuite, on a des enseignants qui sont des agrégés ou des certifiés qui viennent de l'enseignement secondaire.
Mmh.
Et effectivement, on a des intervenants professionnels. Et c'est vrai que ces intervenants-là, généralement, les étudiants adorent leur cours parce qu'il est beaucoup plus concret, On leur donne des illustrations, du quotidien en fait, hein, ce qui fait que ça rend le métier et la matière beaucoup plus vivante. Après, il faut un peu des deux, il faut de la théorie, de la pratique.
Et oui, bien sûr.
Et je pense que c'est une vraie force pour la formation en fait, d'avoir cette pluralité de regards, d'enseignement. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on prépare aussi à la poursuite d'études. Mmh. Et donc avoir une formation aussi théorique avec des enseignants-chercheurs ou des agrégés, et c'est forcément aussi un plus.
Est-ce qu'aujourd'hui la filière IUT est une filière qui séduit, ou bien c'est une filière qui souffre un peu de préjugés ?
Ah non, c'est vraiment une filière qui séduit. Qui séduit et qui est une réelle alternative dans le paysage de l'enseignement supérieur. On n'en parle peut-être pas suffisamment, ouais. Parce que par exemple en matière de commerce, on pense tout de suite aux écoles de commerce, alors que l'IUT est une très très bonne voie de préparation si on souhaite continuer. On a des étudiants qui régulièrement, de bons étudiants naturellement, hein, qui arrivent ensuite au niveau master dans le top 10 des grandes écoles de commerce, hein, comme par exemple Schema, Neoma, Audencia, etc. Oui, l'IUT est une très bonne alternative et peut-être sur le territoire davantage mettre en avant en fait.
Oui, hein, alors effectivement, on pourrait mettre au défi les Tarbais de pouvoir situer l'IUT dans la ville de Tarbes.
Oui, exactement, parce que je me suis rendu compte que certains Tarbais méconnaissaient. Ouais. Effectivement, ils... Peut-être une connaissance du campus au sens large, parce qu'il y a l'école d'ingénieurs qui est pas très loin. En fait, on fait partie de la même entité depuis 2023, presque jour pour jour, parce que c'était le 24 novembre, la naissance de la 4e université de technologie de France, donc l'UTOP, qui est notre université. Et on a deux composantes, donc l'IUT et l'ENIT, qui se trouvent tout juste à côté.
On peut dire aux Tarbais et puis aux personnes qui nous écoutent et qui sont pas très loin de Tarbes que... À Tarbes, il y a cette formation Tech de Co qui existe, qui est accessible, et c'est dommage de pas de passer à côté sans le savoir. Donc voilà, on peut profiter d'être tout prêt pour se renseigner.
Et d'ailleurs, si je peux me permettre, il y a un rendez-vous qui permettrait de faire mieux connaissance avec l'IUT. Ce sont les journées portes ouvertes. D'ailleurs, tous les établissements ont les mêmes dates. C'est les 30 et 31 janvier. Donc le 30, c'est le vendredi, ça commence à partir de 13h30. Et ça peut être une belle occasion de venir découvrir l'IUT, notre campus, parce qu'au-delà de ces deux établissements, il y a également un CROUS, une résidence universitaire, des aménagements aussi qui sont vraiment super pour les étudiants, avec des espaces pour faire du sport notamment. Voilà, donc ça peut être une occasion.
Il y a combien d'étudiants aujourd'hui sur votre campus et en particulier dans votre filière ?
Alors, plus de 3000. Je crois aux alentours de 3100, 3200 étudiants, en comptant les étudiants de l'école d'ingénieurs et de l'IUT. L'IUT étant la plus grosse structure.
Voilà. Et vos départements, Tech de Co ?
Et nous, on est un gros département. On a 150 étudiants. En fait, 150 étudiants en première année. Et au total, on a, puisqu'on a quand même 3 années et aussi une licence pro tourisme, commercialisation des produits touristiques. Au total, on a 410 étudiants.
Voilà, donc
420 étudiants.
C'est un gros département.
Oui, c'est un gros département.
Frédéric Gérard, depuis près de 10 ans que vous êtes responsable de ce département Tech de Co, donc à l'IUT de Tarbes, quelle évolution vous avez vue peut-être au cours des dernières années ? Alors j'imagine que vous allez nous parler de l'IA, mais c'est peut-être pas le seul vecteur d'évolution. Qu'est-ce qui change au fond dans une formation comme la vôtre ?
Alors déjà, un changement fondamental, c'est le passage du DUT en 2 ans au BUT en 3 ans. Donc là, c'est une réforme qui a maintenant, le temps passe vite, 5 ans par là. Et ça, c'est une grosse réforme parce que le programme a quand même été totalement remanié, justement dans le sens d'une professionnalisation. Mmh. Donc ça, c'était un grand changement, et aussi pour permettre au niveau du paysage universitaire européen, donc de permettre des échanges avec les universités étrangères, puisque c'est le niveau L3 qui est reconnu à l'international en Europe.
On a parlé du profil des candidats, mais est-ce que vous avez peut-être quelques exemples à nous donner des débouchés? Les étudiants qui sont passés à Tech de Co, ils sont où aujourd'hui? Ils travaillent dans quel domaine, dans quel lieu? Est-ce que vous avez peut-être quelques exemples à nous donner pour qu'on ait un aperçu des débouchés possibles qu'il y a après le passage à Tech de Co?
Alors, si on parle des débouchés, forcément, il faut parler aussi des parcours que nous proposons à partir de la deuxième année. On a trois parcours. Donc un parcours autour de la relation client, ça s'appelle Business Development Management de la relation client, où là les débouchés sont plutôt là je parle en termes de professionnalisation, oui, hein, oui, parce oui. qu'il existe ensuite des masters, enfin des poursuites d'études dans tous nos parcours, mais donc ça tourne plutôt autour par exemple des métiers, alors soit de la vente directe, soit en agence immobilière par exemple, en banque, en assurance par exemple.
Ah oui.
Ensuite on a mais pas seulement, hein, c'est assez réducteur parce que tout dépend ensuite de la poursuite d'études réalisée. Les étudiants peuvent aussi trouver des débouchés par exemple dans le domaine du marketing.
Oui, donc en fait c'est déjà un panel très large.
Oui, c'est un panel très large, c'est une formation qui est quand même très 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 généraliste. Donc ça peut être aussi par exemple acheteur dans la grande distribution, dans l'industrie, chargé de développement commercial, etc. Ensuite, on a un deuxième parcours qui lui est un parcours intitulé Business International Achat et Vente, qui prépare essentiellement à des métiers du commerce international, marketing, communication, logistique, transport, stratégie d'entreprise à l'international. Et notre troisième parcours qui a le vent en poupe, vous parliez tout à l'heure des changements en 10 ans. Effectivement, on a introduit le marketing digital.
Oui.
Et donc, ça, c'est un parcours qui s'appelle...
Donc c'est là que l'IA
voilà, marketing digital et entrepreneuriat, e-business et entrepreneuriat. Alors, l'IA, on essaye de l'enseigner, en tout cas ses bons usages, à tous nos étudiants. Mais dans le cadre de ce parcours, donc il travaille plus spécifiquement l'e-business, hein, le marketing digital, le community management aussi, la production de contenu. Voilà, en somme, un peu les débouchés de nos trois parcours.
Alors, ce qui est frappant, c'est que plus ils avancent et plus l'étau se resserre, mais en même temps, à la sortie, il y a un panel encore plus large de propositions, de possibilités de vie professionnelle, en fait.
Ah oui, très, très, très large. En fait, la formation est extrêmement généraliste. Parce que là, je vous ai cité des parcours, mais en réalité, ils doivent toucher à tout, en fait, au cours de leur formation. Et on a besoin de commerciaux dans tous les secteurs d'activité.
Alors voilà, c'était ma question suivante. Il y a du travail dans tous les métiers là que vous nous avez cités, toutes les filières. Il y a du travail partout.
Oui, il y a du travail partout. C'est un des métiers qui est le plus recruté dans tous les secteurs. On a besoin de commerciaux. Voilà, et donc beaucoup de candidatures en Tech de Co chaque année, voilà. Et ça ne désemplit pas.
On n'a pas parlé des valeurs. Je voudrais qu'on termine avec ça parce qu'en préparant cette émission, vous m'avez dit, mais il y a quelque chose de très important. Ce sont les valeurs qui sont transmises dans notre formation. Quelles sont-elles, ces valeurs? On a bien compris qu'il y avait vraiment une importance des valeurs humaines de la relation, donc de la relation à l'autre. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous parler un petit peu de ces valeurs qu'il y a dans cette formation?
Alors déjà en termes d'accompagnement avec les étudiants, on a des valeurs quand même d'écoute, de bienveillance.
Vous arrivez à accompagner sur mesure,
enfin. Alors quasiment. En fait, on a des directeurs d'études en fait qui aussi sont très très présents pour une personne en particulier qui est quasiment tout le temps là, qui discute énormément avec, avec les étudiants. Et puis on a aussi cette capacité de voilà, déceler les problèmes. Hein. Mmh. Il y a des problèmes de santé mentale. Alors justement, avec ce collègue et moi-même, on est formateur en santé mentale et on propose aux étudiants de se former pour être secouriste en santé mentale. Et justement pour repérer chez les autres, donc au sein de la classe, enfin c'est une formation
pour détecter
citoyenne,
quand ça va pas,
pour détecter quand ça va pas et savoir quoi faire quand ça va pas.
Alors,
donc c'est vrai qu'on insiste.
On prend l'engagement aujourd'hui que vous reviendrez nous parler spécialement
avec,
de ça.
Plaisir,
de
avec grand plaisir.
De cette formation.
Donc ça c'est déjà effectivement nos valeurs d'accompagnement, de bienveillance, d'écoute envers les étudiants. Et après par contre au niveau de la formation, ce qu'on cherche aussi à inculquer, c'est que le commerce, ce n'est pas uniquement faire du profit, qu'on peut faire du commerce de plein de manières différentes, déjà en étant dans la ligne droite de la transition écologique.
Ah oui, c'est possible.
Voilà, c'est possible aujourd'hui de faire du marketing innovant tout en étant durable. Et puis c'est aussi mettre l'accent sur une autre forme d'économie qui est l'économie par exemple de la fonctionnalité ou l'économie sociale et solidaire. Mmh. Et donc on insiste beaucoup d'ailleurs sur ce point-là en proposant aux étudiants qui le souhaitent, déjà tous les étudiants hein, depuis la première à la dernière année, de s'engager dans une action sociale et solidaire, ce qui leur permet d'avoir des points bonus, mais on les pousse à cela. Et on a une action particulière auprès des étudiants de troisième année en formation initiale où on les amène à faire une immersion dans une structure de l'économie sociale et solidaire en tant que bénévole pendant 5 semaines pour justement développer leur savoir-être.
Et est-ce que vous constatez que les associations ou les milieux où ils sont envoyés les accueillent volontiers aussi? Est-ce qu'on sait faire la place à ces jeunes qui ont besoin d'apprendre?
Ah oui, bien sûr. On organise d'ailleurs un forum des associations et des structures de l'économie sociale et solidaire au sens large et on fait carton plein en fait là encore parce que les assos, les structures viennent et sont très très demandeuses effectivement oui. De pouvoir bénéficier de l'expérience des étudiants mais au-delà de ça hein, c'est juste mettre la main à la pâte au quotidien dans l'association, s'y investir, c'est surtout ce qui nous paraît important au-delà de l'aspect stage en fait. Hein. C'est plus qu'un stage.
Allez, une dernière question, Frédéric Girard. Pourquoi vous aimez ces métiers de commerce et ce métier d'accompagnement des étudiants que vous avez aujourd'hui en tant que responsable de ce département Tech de Co?
Alors, moi, ma vie professionnelle, ce n'est pas le commerce. Pas du tout, puisque je suis enseignante-chercheuse en psychologie, donc pas grand-chose à voir. Quand même, j'avais commencé un BTS de commerce dans une école de commerce à Paris il y a très très longtemps et j'ai pas du tout aimé.
Ah bon?
Ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Et le fait est que quelques années plus tard, la roue tourne et finalement je deviens responsable du département. Mais finalement, du coup de l'intérieur, ouais. J'ai appris aussi à aimer cette formation pour la grande diversité et pour tous les enseignements qui sont pratiqués de l'économie, droit, psycho, expression. J'ai peur d'en oublier. Il y a énormément de matières. C'est très généraliste et c'est ça qui est aussi passionnant.
Merci beaucoup d'être venu nous présenter donc cette formation Tech de Co. C'est vrai qu'on avait, on méconnaissait cette formation. Peut-être que on avait quelques préjugés, voilà, sur cette formation. On a découvert avec vous, Frédéric Girard, que vraiment la relation humaine, la relation à l'autre, est un point fort de ce que vous proposez à vos étudiants. Je rappelle la date du 30 et 31 janvier, portes ouvertes à l'IUT pour découvrir cette formation, enfin votre département et puis les autres formations du campus, oui. Bien sûr. Donc 2 jours ouverts aux lycéens principalement, mais à toutes les personnes qui sont curieuses de découvrir ces formations et l'IUT. Hein.
Exactement. Et puis je précise aussi qu'on a la possibilité pour tous les lycéens qui nous écoutent de venir faire un mini stage à n'importe quel moment pour découvrir la formation et vivre une journée avec les étudiants en formation en TC, en tech de co. Et donc merci beaucoup pour votre accueil, votre invitation.
Merci Frédéric Girard, à bientôt sur Radio Présence.
Voilà Frédéric Girard, donc responsable du département tech de co à l'IUT de Tarbes, était au micro d'Anne-Rose Jankovic, que l'on remercie. Allez, la suite de cette émission, c'est dans un instant avec Victor Vigné qui nous rejoint. Victor Vigné est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Il sera avec nous pour le journal régional. Et puis juste après, l'émission de Mathias Terrier de Passage à Lourdes. Très bon lundi en ce 29 décembre.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandes. Oh, la vie t'arrache à moi.
L'hymne à l'amour nous amène tranquillement à 12h30. Dans un instant, dans cette émission Présence Midi, eh bien, on va recevoir la maman d'un saint, Antonia Salzano, la maman de Carlo Acutis. Carlo Acutis qui a été canonisé en septembre 2025. Eh bien, Antonia Salzano était à Lourdes en octobre dernier. C'est à cette occasion que Mathias Terrier a pu la recevoir dans cette émission de passage à Lourdes. Entretien à écouter juste après le journal régional, un journal présenté par Victor Vigné, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Le festival de Rocamadour dans le Lot lève bientôt le mystère sur sa nouvelle programmation. C'est du 15 au 26 août qu'aura lieu la 21e édition de cet événement musical. Mais c'est bien le 13 janvier à 18h30, à la fois sur Facebook et dans la salle du cloître du Grand Couvent de Gramat, que l'on apprendra les noms qui vont participer à cet événement. Pour rappel, le thème de cette édition sera, je cite, « Dialogue des mondes ». Un arbre de 15 mètres de haut a bloqué le passage dans le Tarn. Sur la route D629, les automobilistes ont eu la surprise de trouver un frein barrant la route dans la nuit de vendredi à samedi. Situé à l'entrée du village des Camaz, l'arbre a pu être tronçonné grâce au service des routes de Sorèze. Enfin, le service des routes et les passagers des véhicules ont pu déblayer la voie. Le château de Bioule va pouvoir faire peau neuve. Les travaux vont pouvoir débuter en 2026, selon les services de l'État. Cet ancien château fort, classé monument historique dans le Tarn-et-Garonne, accueille l'école primaire de la commune depuis 1882. L'aide versée par la Fondation pour le patrimoine est de 185 000 euros. Le pire a été évité dans les Hautes-Pyrénées à Tarbes hier. Dans le début d'après-midi, des personnes vivant dans un immeuble, je cite, désaffecté, sont sorties à cause d'une fuite de gaz. Les pompiers ont pu mener l'évacuation de plus de 20 personnes. Le câble d'alimentation du gaz a été coupé. La police se dirige, je cite, vers la piste de l'acte volontaire. Le maire de Clermont-Savès ne se représentera pas. Gaëtan Longo est le maire de cette petite commune du Gers depuis 2008. Après avoir brigué 3 mandats, il renonce à en briguer un 4e au municipal de 2026. Dorénavant, je cite, il privilégie sa vie familiale. Pour la suite, une seule liste est présente pour ses prochaines élections, celle de Philippe Capdeville. Les blocages routiers en Ariège touchent aussi les commerçants. Environ 650 salariés ainsi que 300 entreprises ont été impactés par les blocages des agriculteurs. Hier, le préfet de l'Ariège a annoncé une réunion dans le courant du mois de janvier prochain. L'objectif, trouver des solutions pour ces employeurs et travailleurs touchés par les mouvements protestataires agricoles liés à la crise de la dermatose nodulaire. Le métro toulousain joue les prolongations pour le réveillon. Tisséo annonce que le métro circulera toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier pour la fête du Nouvel An. D'autres moyens de transport sont aussi prolongés pour cette occasion, le tram, les bus et les linéos.
Merci à Victor Vigné de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Prochain point sur l'info sur notre antenne, ça sera à partir de 13h avec la rédaction française de Radio Vatican pour l'actualité nationale et internationale. La suite de cette émission, c'est donc avec Mathias Terrier et son invité de passage à Lourdes. Il reçoit cette semaine Antonia Salzano.
Présence de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle puisque nous recevons la maman d'un saint. Antonia Salzano, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, de prendre ce temps pour venir nous parler de votre fils.
Oui, absolument.
Carlo Acutis. Oui. Canonisé le 7 septembre 2025. Et un merveilleux saint pour notre temps. Un témoin jeune qui marque et qui a un magnifique témoignage autour de sa foi, du service des autres, de sa dévotion à l'Eucharistie. C'est de tout ça dont nous allons parler avec vous. J'imagine, Madame Salzano, que votre vie a complètement changé ces derniers temps.
Absolument, mais dès quand il est mort, en effet, c'est commencé, parce que le premier miracle, Carlo l'a fait le jour du funérail, il y avait une femme avec un cancer qui devait commencer la chimiothérapie. Elle a prié Carlo et s'est guéri complètement. Et ça, c'était le premier miracle. Et lors de ce moment, il a commencé toute une série de miracles. Chaque jour, nous recevons nouvelles de miracles, de conversions. Et vraiment, c'était une chose incroyable. Puis, j'ai rêvé Carlo, après 2 mois qu'il est mort, il m'a dit « je serai béatifié et après canonisé ». Et en effet, c'est vrai parce que c'est passé ça. Et...
Donc nous allons raconter son histoire, vous allez nous raconter son histoire. Auparavant, une autre question, vous vivez à Assise, il est lui aussi à Assise, puisque son corps intacte, fait l'objet de dévotion à Assise. Ça doit être quand même, pour la maman que vous êtes, très spécial à vivre.
Ah oui, parce qu'elle est habillée comme un jeune d'aujourd'hui. Hein. Et sûrement, ça touche beaucoup les jeunes, surtout, hein, qu'ils voient quelqu'un comme eux. Car elle a vécu une sainteté, une vie normale, ordinaire, mais il a ouvert la porte de son cœur à Dieu et sa vie normale, ordinaire, s'est devenue extraordinaire. Il a vécu la présence de Dieu dans toute sa vie. Et ça, c'est le message de Carlo. C'est possible, la sainteté, aujourd'hui aussi, parce que ce sont des temps difficiles, mais c'est possible de devenir sainte, même dans l'ordinarité d'une vie, en faisant tout en Jésus, par Jésus, avec Jésus, comme faisait Carlo.
Si on reprend le fil de son histoire, il est né en 1991, il est mort à l'âge de 15 ans. Quel enfant était-il, madame ?
Il était un enfant sûrement anticipateur, je dis, il courait avant le temps, parce que 3 mois, les premiers mots, 5 mois, déjà il parlait, avec la foi aussi, il était vraiment extraordinaire. Et dans toute sa vie, il était comme en accélération. Il avait. Et aussi avec la foi, il a fait sa première communion quand il avait 7 ans. Et il a écrit « Être toujours uni à Jésus ». Ça, c'est le programme de ma vie dans 7 jours. Et il a commencé à aller à la messe chaque jour, à faire l'adoration eucharistique chaque jour, lorsqu'il avait sa première communion. Mais ça n'empêche pas de vivre une vie normale, comme tous les jeunes. Et surtout, s'impliquer aussi dans une vie de charité, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Surtout, il était catéchiste, mais il aidait les clochards dans la rue. Et il amenait des sacs à accouchage, il amenait des repas. Et puis, il faisait de son volontariat avec les plus âgés, avec les jeunes, les jeunes qui avaient des problèmes de boulimie. Il a fait plusieurs des choses. Puis, il a aussi fait des choses qui sont en train de voyager tout le monde, comme l'exhibition sur le miracle eucharistique, que ce sont des signes que Dieu a donnés où l'hostie a devenu chère, où il y avait des choses extraordinaires qui s'est passées pour démontrer que dans l'hostie consacrée, il y a la réelle présence de Jésus dans le monde. Et il a fait cette exhibition qui est en train de voyager tous les continents. Nous parlons de la Chine, des États-Unis, de tous les continents. Et beaucoup de gens s'est rapprochés à la fois grâce à cette exhibition. Et vraiment, je pense que ça, c'est un des œuvres les plus belles que Carl a fait.
Donc vous nous dites qu'il allait très vite, il était éveillé à toutes les questions de la foi très jeune. Oui. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le geek de Jésus ou le cyber-apôtre ?
Parce qu'il était vraiment un génie de Internet. Hein. Il faisait, à 9 ans, il faisait la programmation en C++, Java, Ubuntu, il a appris tout seul. Il avait une génialité. Hein? Je pense parce que nous avons un grand scientiste dans notre famille qui s'appelle Ruffini, la règle de Ruffini, mathématique. Mais je ne sais pas si c'est ça, mais en toute manière, il faisait des choses incroyables. Et il a fait un programme de statistiques à mon mari, qui était un assureur pour faire vraiment très compliqué. Quand il avait 9 ans, pour dire. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a utilisé cette skill pour faire cette œuvre d'évangélisation. C'est pour ça que Pope Françoise l'appelait l'influenceur de Dieu, parce qu'il voulait annoncer la bonne nouvelle. Il voulait parler de l'Eucharistie, il voulait parler de toutes ces choses merveilleuses, de la Vierge Marie, il a parlé beaucoup de Lourdes, de Fatima, toutes les apparitions reconnues par l'Église, où la Vierge Marie a parlé et a dit des choses très importantes. Et Carlo disait qu'on doit écouter plus. Et alors, il voulait faire des choses pour aider les gens à avoir plus foi. Parce que le problème aujourd'hui, c'est le manque de foi.
Vous nous dites aussi qu'il a cherché la sanctification dans la vie quotidienne.
Oui.
Ça veut dire qu'il voulait vivre de la bonté, de la bienveillance vis-à-vis des autres. Il aimait son prochain presque naturellement, d'un élan du cœur.
Oui, mais Carlo, c'était quelqu'un qui, quand il rencontrait une personne pour la route, il ferait un sourire. Il les saluait, même s'il ne les connaissait pas. Il était extraordinaire dans ses façons. Parce qu'à Milan, les gens, c'est très pris de les travail. Ils ont toujours des faces sérieuses. Et même s'il te connaît, il passe comme ça pour
vous. Vous étiez à Milan à l'époque.
Oui, hein, oui, oui, oui. Et parce que nous habitons à Milan. Hein. Nous avons une maison à Assise. Mais notre Carlos est enceinte de l'église de Milan. Hein.
Oui.
Et vraiment, Carlos était incroyable parce qu'il faisait des sourires. Pour lui, chaque personne était un monde, était importante. Et alors, il aimait la gente. Ça, c'était ça. Et il les montrait. Il témoignait surtout sa union avec Dieu. On le sentait quand on était près de Carlos. On sentait cette présence de Dieu, qu'il avait cette union spéciale. Il disait que si on n'est pas connecté avec Internet, nous sommes désespérés. Mais si nous ne prions pas, nous ne sommes pas connectés avec le ciel. Ça, c'est un problème.
Donc, il faisait montre de cette attention aux autres. Et c'était un jeune pétri de prière aussi. Il aimait la prière et en particulier, il a un lien très fort avec l'Eucharistie.
Oui, absolument. La messe quotidienne, l'adoration eucharistique quotidienne, les chapelets chaque jour, la lecture de la Sainte Écriture, mais aussi de faire des ouvres de charité. Non, charité qui c'est l'aide, comme je disais, aux clochards dans la route, parce qu'il faisait comme un caritas domestique. Hein. Il a commencé à mener des repas, des sacs à couchage, parce que nous vivons dans le centre de Milan et malheureusement autour de notre quartier, il y a beaucoup, beaucoup de clochards dans la route. Alors il disait, j'ai une maison, j'ai l'amour de mes parents, cette personne, rien. Et alors il a commencé, dans une façon pratique, à aider cette personne. Et puis, aussi, spirituellement, il a fait beaucoup de choses, comme je disais, l'exhibition sur le miracle eucharistique, et il a fait les catéchistes, et aussi des ouvres comme par exemple aider les copains qui avaient plus de problèmes à l'école ou aider avec les computers. Il faisait des sites gratuitement. Il a fait aussi pour des paroisses, pour les jésuites, pour les volontariats des jésuites, pour les jeunes. Il a fait beaucoup de choses. Mais naturellement, la chose plus importante, c'était cette chose qu'il a fait pour annoncer la foi. Qui seulement dans les États-Unis, Carlo est testimonial du revival eucharistique. La conférence épiscopale des États-Unis l'a choisi comme un testimonial parce que son exhibition est allée presque in 2000 paroisses et sont en tous 18 000 paroisses. Vous imaginez combien son œuvre est en train d'aider beaucoup de gens. Et alors, c'est vraiment son œuvre aussi spirituelle qu'il a fait. Hein.
Pour la maman que vous êtes, il devait déranger quand même avec cette, d'abord précoce, plein d'initiatives, génial. Donc, ça n'était pas très confortable quand même, non. La vie quotidienne.
Non, non, c'était vraiment normal. Il était très sympathique. Il aimait les sports, mais avec équilibre, non, il n'était pas folle de le football ou tout ça, il aimait tous, mais avec en balance. Hein.
Ah oui.
Et puis, il avait beaucoup d'amis, il régulait, il faisait des films avec les chiens, parce qu'il était très bon aussi à utiliser tous les programmes, Final Cut Pro, toutes ces choses, il faisait des petites animations avec ces programmes derniers, non? Mais il faisait rigoler tous les amis parce qu'il faisait l'histoire des chiens et les chats qui se combattaient. Il faisait des choses. Il était très sympathique, mais au même temps, il avait cette foi qui c'était vraiment extraordinaire. Hein. Mais ça ne l'empêche pas d'être normal, un jeune normal de son temps. Il aimait aussi jouer à la PlayStation, par exemple. Non, mais il disait maximum, je vais jouer avec ça maximum une heure par semaine. Parce qu'il comprenait que c'était dangereux. Et quand il a reçu à 8 ans cette joue, il a dit maximum un heure par semaine. Et il a maintenu ça pour dire comment il était balancé dans sa vie. Hein. C'est un modèle aussi pour dire à les jeunes d'utiliser ce moyen technologique, cette social, mais avec équilibre. Hein. Tout avec l'équilibre.
Avant de marquer une pause, je signale que vous avez écrit ce livre, Le secret de mon fils Carlo Acutis, avec un journaliste qui s'appelle Paolo Rodari. Et vous racontez toute cette vie. Hein. Nous marquons cette pause, madame, si vous voulez bien, et nous nous retrouvons juste après pour continuer ce dialogue avec vous. J'aimerais que vous nous disiez notamment son lien avec Lourdes. Ça sera intéressant que là-dessus nous ayons quelques échanges. À tout de suite.
Présence à Cahors, 92.5.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence. Il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
De passage à Lourdes.
Notre invité aujourd'hui est l'auteur de ce livre, Antonia Salzano Acutis, Le secret de mon fils Carlo Acutis. Carlo Acutis a été canonisé le 7 septembre 2025. Et madame, vous nous faites l'honneur d'être l'invité de cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci.
Pour nous parler de votre fils qui a eu une vie fulgurante, 15 années, durant laquelle il a marqué tous ceux qu'il a croisés. On l'appelle le cyberapôtre. Le guide de Jésus, il avait du génie concernant toutes les questions digitales, vous nous le disiez. Et puis, c'était d'abord un jeune qui aimait la prière, l'Eucharistie, et qui très vite a rayonné par sa foi et sa charité. Avait-il, Madame Salzano Acutis, un lien avec Lourdes? Parce que vous êtes de passage à Lourdes, je vous pose cette question, évidemment. Quel était son lien avec le
Il jeu? Aimait beaucoup Lourdes, parce qu'on est venus ici, à Pierre la Vierge Marie, il avait une grande dévotion pour Sainte Bernadette, pour l'humilité de Sainte Bernadette. Il se souvenait, il parlait toujours de quand la Vierge Marie a dit à Sainte Bernadette, je ne te promets pas de te faire heureuse dans ce monde, mais dans l'autre, oui. Non? Et il voyait Lourdes comme vraiment un message Immaculée Conception, non? Comme un message d'espérance pour nous, vraiment. Parce que la Vierge Marie nous dit, nous donne sa confiance, sa espérance qui aussi pour nous, non, nous attend quelque chose d'extraordinaire. Hein? Même si nous avons cette vie difficile, mais nous sommes appelés à devenir comme la Vierge Marie. Alors Carlo vraiment avait cet grand amour. Et puis il disait que l'eau, c'est vraiment importante parce qu'à travers cette eau, la Vierge Marie nous donne des grâces extraordinaires, des purifications, des transfigurations. Vraiment, c'est un don que la Vierge Marie nous donne. Et alors, vraiment, il aimait cet endroit, la beauté aussi des lieux, mais aussi l'atmosphère mystique qu'on se respire en Lourdes. C'est vraiment extraordinaire.
Vous allez confirmer ce qu'on m'a raconté, qu'il avait vu des images de Jean-Paul II à Lourdes en 2004. Lorsque Jean-Paul II vient en pèlerinage, il a vu ces images et ça lui a donné aussi lui-même, Carlo, l'envie de venir.
Oui, absolument, oui. Parce qu'il connaissait très bien Jean-Paul II et il avait une grande estime de cet pape, hein, un pape eucharistique, un pape extraordinaire, le pape de la Vierge Marie aussi.
Oui, un pape très marial aussi.
Oui, absolument.
Et donc vous l'avez accompagné, vous êtes venu ici à Lourdes.
Oui, nous
lui.
Sommes venus en pèlerinage et avec mon mari, ma grand-mère, ma mère, et il y avait aussi les petits chiens de Carlo. Qui était tellement petite qu'on est mené dans un sac. Il est venu aussi près de la grotte cachée dans la.
Oui.
Oui, je pense que c'était très, très particulière cette situation. C'était les chiens qui Carlo avait voulu. C'était très petite. Alors il est venu en voyage avec nous.
Il l'avait caché dans son sac,
oui.
Et il l'avait emmené à la grotte.
Oui, parce qu'il s'est sanctifié aussi les chiens, sûrement.
Et donc il a accompli tout ce pèlerinage. On va raconter aussi la mort fulgurante de votre fille,
oui.
Brutale.
Oui, mais la leucémie fulgurante, heureusement, la M3, aujourd'hui, on se peut curer, hein, on peut la curer.
On peut guérir de
ça. Oui, on peut guérir parce qu'ils ont découvert de nouvelles choses. J'ai prié beaucoup, Carlo, d'aider pour trouver la solution pour guérir de cette leucémie, parce qu'avant, quand Carlo l'a eu, c'était une sentence de mort.
Et il a été emporté par la maladie en...
C'était cinq jours, Carlos. Sa maladie, c'est... Au premier moment, on s'est caché derrière un simple grippe. On pensait qu'il avait un grippe. C'est venu deux fois le docteur parce qu'il avait mal à la gorge, quelque chose de très simple. Mais un matin, le troisième jour, il s'est réveillé, il n'avait pas la possibilité de se mouvoir. Hein? Oui. Et alors, on a décidé de l'emmener à l'hôpital. Et pendant la route, Carlo me dit, d'ici, je ne vais pas sortir vivant. Mais je te donnerai beaucoup de signes, hein, avec calme, toujours avec les sourires.
Il vous a dit ça?
Et, oui. Et avant de... qui ont découvert qu'il avait la leucémie, il a dit un jour, quand il avait la grippe, il a dit, j'offre mes souffrances pour l'Église, pour le pape, pour ne faire pas le purgatoire, aller tout droit en paradis. Et on trouvait ça très étrange, ce mot, non? Mais en effet, il savait, comme s'il était inspiré, non? Et deux mois avant, il avait fait une vidéo où il dit, quand mon poids sera 70 kilos, je suis destiné à mourir. Et son poids était 70 kilos quand il est mort. Et c'est comme une annonce. Il regarde le ciel avec un sourire. Il n'avait pas peur de la mort. Il disait que la mort est le passage à la vraie vie. Qui a peur de la mort, ça veut dire qu'il n'a pas la foi. Parce que si vraiment on croit que la mort, c'est la rencontre avec Dieu, la chose la plus merveilleuse qu'on a, on ne peut pas avoir peur de la mort.
Mais tout de même, pour vous, pour les parents, ça a été un drame.
C'est un drame si on n'a pas la foi. Si on a la foi, on doit accepter la volonté de Dieu parce que nous savons que Dieu fait tout pour notre bien.
Mais on est séparé physiquement de son fils.
Oui, c'est mais c'est une vraie séparation, parce que la présence de notre chair, c'est toujours à côté de nous. Hein? Et c'est en présence, plus présence. Parce qu'ils nous voient toujours, ils sont toujours avec nous. C'est nous qui devons nous connecter avec eux, avec la prière, en vie eucharistique. C'est possible de l'écouter plus. Mais l'important, c'est de vivre cette vie unie à Jésus. Parce qu'en Jésus, nous écoutons aussi notre chair.
Aujourd'hui, vous-même, vous portez le message de Carlo. C'est devenu votre vocation de maman, de porter le message que lui-même fait rayonner.
Oui, absolument. Mais je pense que chaque mère a un fils spécial. Chaque fils est spécial, non? Chacun est appelé à devenir sainte. Hein? Jésus aussi nous dit ça. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors, je pense que chaque fils, pour sa maman et son papa, c'est spécial, non? Et moi, chaque mère, chaque père, parle de leur fils, non, normalement. Alors, moi aussi, je suis appelée à parler d'un fils particulier que l'Église a choisi comme exemple. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont saintes, qui sont dans les chemins de la sainteté. Peut-être qu'ils ne vont pas être canonisés publiquement, mais je suis confiante qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes merveilleuses, beaucoup de... Et Carlos, c'est un modèle, hein. Et alors, je veux dire que, oui, c'est ma mission de parler de Carlo, de parler de sa spiritualité, les choses qu'il a fait. Mais je veux dire un message à toutes les mamans que vous avez, votre fils sont spéciales aussi.
Donc, vous vous dites que Carlo était forcément rayonnant, mais que toutes les mamans doivent voir la richesse qu'elles ont.
Ce sont des créatures de Dieu, ce sont spéciales. Chaque personne est spéciale. Et j'ai. Je pense que les mamans doivent faire venir, c'est comme un violon de Stradivari, non, les très connus. Hein?
Oui.
S'il n'a pas le musicien qui est capable de jouer bien, on se peut écouter le son.
Le violon peut...
Et les mamans sont comme les musiciens qui doivent faire... Hein? Et parce que la mission de chaque maman, c'est de faire venir, hein? D'aider leur fils.
Aujourd'hui, vous êtes très sollicité. Vous voyagez beaucoup, vous témoignez beaucoup. Vous êtes vous-même étonné de ça ou bien vous dites c'est ainsi?
Écoutez, moi, avec mon travail aussi, ma vie, j'ai voyagé, j'ai vécu dans plusieurs des villes, et j'ai parlé des langues. Et alors, ce n'est pas si difficile pour moi parce que j'étais préparée, hein, parce que j'ai parlé les langues, j'ai voyagé, je connaissais Mais je le fais avec plaisir parce que je pense que la spiritualité de Carlo, c'est une spiritualité qui aujourd'hui peut être suivie. C'est facile, c'est possible, la sainteté aussi aujourd'hui. Et on ne doit pas faire des choses incroyables. L'important, c'est d'ouvrir la porte de le cœur à Dieu et permettre à Dieu de faire les chefs d'œuvre qu'il veut faire avec notre vie. Le problème, c'est ouvrir cette porte, hein, et surtout avoir plus confiance dans l'Église, dans les sacrements, la prière, la Sainte Écriture, et chercher toujours, même si on n'a pas la foi, chercher. Parce que la recherche est un signe d'intelligence, et je suis sûre que si on cherche avec le cœur pur, avec Dieu, nous fait trouver quelque chose, sûrement.
Après Carlo, vous avez donné naissance à des jumeaux.
Ah oui, ça c'était un cadeau de Carlo, parce que après qu'il est mort, il est 2006, j'avais 39 ans, j'étais déjà âgée, et avant je ne me demandais pas pourquoi je n'ai pas eu autre fils, non, parce que j'ai accepté la situation. Et je disais, mais je suis encore jeune, pourquoi n'essayez pas de comprendre s'il avait des problèmes? Apparemment, il n'y avait pas de problème, mais après 4 ans que j'essayais, j'avais déjà pensé d'adopter des fils dans d'autres pays. Hein. J'avais déjà fait toutes les pratiques. Et en nuit, je vais rêver Carlo qui me dit « Non, mais t'inquiète pas, tu deviendras nouvellement maman. » Et après, à moi, je suis restée enceinte de 2 jumeaux. Et la date le docteur avait écrit pour la naissance de ces jumeaux, c'était le 12 octobre, la date de la mort de Carlo. Après, ils sont nés un peu plus en anticipation. D'accord. Ils l'ont anticipé parce qu'en Italie, on fait comme ça avec les jumeaux. Mais la date, c'était la signature de la grâce de Carlo pour moi.
Merci beaucoup pour cette belle histoire que vous racontez avec tant de cœur. Je redis que le secret de mon fils Carlo Acutis, comment il est devenu saint, c'est le livre que je vous conseille à tout un chacun de vous saisir pour comprendre et pénétrer encore plus dans la vie de Carlo Acutis. Il y a aussi un prier 15 jours avec Carlo Acutis, paru chez Nouvelle Cité, et également, signé Jean-Baptiste Maillard, devenir saint avec Carlo Acutis, paru chez Paroles et Prières. Donc, 3 ouvrages, notamment, parmi tous ceux qui ont pu paraître. Il y a beaucoup de livres. Merci beaucoup, madame. Merci. On vous souhaite un bon séjour à Lourdes.
Merci.
Et à très bientôt, j'espère.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Présence de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier. Porte-toi ma vie à peu de sens.
Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Les discussions en vue d'une paix en Ukraine avancent. Ukrainiens, Américains et Russes sont au moins d'accord.